Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine, cuisine, décoration, jardinage, lecture, activités sportives et mille autres choses. Et ce matin, nous explorerons des expressions françaises autour des jardins, des plantes, des fruits et des légumes. La beauté ne se mange pas en salade, être fleur bleue, yoyoter du bulbe, se faire carotter. Pour évoquer toutes ces expressions, la romance Nathalie Gendreau et l'animateur de Silence ça pousse, Stéphane Marie. Stéphane Marie qui nous donnera quelques conseils pour bien s'occuper de notre jardin alors que l'automne pointe le bout de son nez. La chef Angèle Ferremag choisira un légume de saison pour bien se régaler ce week-end. La journaliste Christine Appelédouelle vous proposera un livre bienfaisant qui mêle science, arbre et amour. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vous n'avez pas encore pris le melon, contrairement à d'autres philosophes médiatiques. Quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien nous, on va aller jardiner avec Voltaire, avec Épicure et même avec Louis de Funès.
Bonjour Guy Métodicino.
Bonjour Ali.
Qui ne sucre pas encore les fraises. Votre nouvelle chronique.
Je me disais que l'expression elle serait pour moi, j'étais sûr.
Votre nouvelle chronique, c'est l'ami du vendredi. L'ami du vendredi, c'est un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Ce matin, un couple d'amis à la vie, à la mort.
Absolument. Et franchement, Thelma et Louise, elles ont la pêche. C'est vraiment un euphémisme.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui
ça
ne
va
supporte pas qu'on la voit pendant l'émission et qui a un cœur d'artichaut.
Oh, c'est vrai.
Il sera question de sexe et de botanique.
Oui, absolument, parce que moi aussi j'ai envie de ramener plein de nouveaux mots dans cette émission. Donc on va parler d'érobotanique, de phytophilie, d'écosexualité. Ça va être un peu technique, mais ça va être très sympa.
Et Stéphane Marie frétille déjà. Hein
frétille.
Bienvenue dans Grand Main vous fasse, ta vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Vous
bonjour
êtes la chef de la guinguette d'Angèle à Paris et vous avez publié chez Marabout Beau, Simple et Sain. Quel est le menu pour ce week-end?
Écoutez, je vous propose de faire des petits artichauts poivrades sautés, bien croquants, bien croustillants, avec un peu de parmesan dessus. C'est tout simple, mais c'est tellement bon.
Vous avez vu comme elle le dit, Guillemette, quand vous avez vu, c'est déjà là.
Je
salive.
Je ne sais pas si c'est elle ou les artichauts, mais tout d'un coup, il y a eu un moment suspendu.
Bonjour Christine Appelédouelle.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique Livre à Psychologie Magazine et autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Un petit avant-goût de votre chronique.
Eh bien, un petit avant-goût, je vais vous parler d'une autrice ou auteure, comme vous voudrez, américaine et qui est biologiste et spécialiste des arbres, hein, qui raconte dans son livre des choses formidables. Voilà.
Bonjour Stéphane Marie.
Bonjour.
Vous co-animez la cultissime émission Silence ça pousse sur France 5. Bonjour Nathalie Gendreau.
Bonjour.
Vous êtes romancière et dramaturge, vous avez collaboré avec Alain Rey sur plusieurs livres et vous publiez ensemble aux éditions Le Robert un livre qui m'a vraiment réjoui, 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin. Avant d'évoquer toutes ces expressions, Stéphane Marie, quels sont d'abord vos conseils fondamentaux? On vous a sous la main, hein, donc on va vous poser la question. On a un bout de terrasse, un balcon, un jardin, avant l'arrivée imminente de l'automne, quels sont vos fondamentaux? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là?
Ben là encore, là pour le moment, il faut profiter de ce qu'il y a, pour j'ai envie de
on
dire.
On fout rien, c'est ça.
On ne faites rien. Surtout merci. Ne faites rien.
Merci d'être venu, Stéphane Marie.
Non, mais profitez. Non, mais c'est bon.
C'est mon conseil préféré.
C'est bien, vous avez bien travaillé au printemps, vous avez bien arrosé pendant l'été. Là, vous regardez, les dahlias sont en fleurs. Et vraiment, un peu de contemplation, un peu. Profitez, quoi.
Christina,
hein. Je suis d'accord avec ce conseil, mais moi, j'ai rien fait pour dans le printemps et pas grand-chose pendant l'été. Alors,
vous serez punis. Vous n'aurez rien à regarder.
Non,
dans le jardin, il y a plein de choses à faire.
Et bien danser maintenant.
Il y a plein de choses à faire dans le jardin, mais sur un balcon, c'est vrai qu'on prépare plutôt les choses pendant l'hiver. Et on est plutôt dans la contemplation à l'automne. Pour voir les choses s'effacer tout doucement, les feuilles tomber, les dernières fleurs s'épanouir.
Et si on a un jardin, il y a peut-être des petites choses fondamentales à faire, non, quand même.
Alors fondamental, oui.
Ratisser,
Non, mais dans le potager, on peut encore semer des lamages. Ça fait encore des choses à faire. Mais là, je vais surtout récolter mes pommes. Je vais récolter mes faillots. J'ai des sublimes pois de Lima qui sont gros comme mon pouce là, et que je vais manger pendant tout l'hiver. Là, on est plutôt dans les récoltes. et peu plus vraiment dans...
Le message est passé, Stéphane Marie, on ne fiche rien et on contemple. Angèle Ferromag.
On ne fait rien dans le jardin.
Le jardin punk.
On ne fait rien dans le jardin, en revanche, on fait beaucoup en cuisine. Là, en ce moment, oui. C'est génial, c'est le paradis, c'est le pied. On peut récolter, déjà, il y a énormément, même sur un tout petit balcon, on peut mettre des capucines, et là, ça dégouline en ce moment, utiliser les feuilles de capucine comme du poivre, les fleurs, évidemment.
Fleurs.
Tout, c'est délicieux. Là, en ce moment, en cuisine, on s'éclate, par contre.
Ah oui.
Tiens, une première expression de la langue française que j'ai cueillie dans votre livre, Nathalie Gendreau, glisser une peau de banane à quelqu'un, ce qui n'arrive jamais dans le monde merveilleux des médias, sinon jamais. Tiens, ça vient d'où cette expression, Nathalie Gendreau ?
Alors, cette expression nous vient des États-Unis. Mm-hmm. Et donc, elle est assez intéressante parce qu'elle vient du monde du théâtre, du cinéma. Et en réalité, elle vient de faits réels, qui étaient qu'à la fin du 19e siècle, les Américains mangeaient des bananes dans la rue. C'était une vraie passion pour la banane. Ils jetaient les bananes par terre, les peaux de banane. Et il y a eu beaucoup de jambes cassées, il y a eu même des morts. Et donc, à la fin, ils en ont eu marre, en fait. Il y a même des villes qui ont expressément produit des lois pour interdire le jeté nonchalant de peaux de banane. Et évidemment, le théâtre comique s'en est emparé parce que c'est amusant. Et il y a eu des gags, en fait, qui sont devenus récurrents, qui sont devenus fixes. Et le premier à l'avoir mis au cinéma, c'est Charlie Chaplin.
Dans By the Sea, en 1915, donc glisser une peau de banane à quelqu'un, c'est donc un procédé déloyal destiné à causer du tort à quelqu'un. Mais il est bon de glisser des peaux de banane dans son jardin, Stéphane Marie.
Absolument.
Voilà.
Absolument, parce que la peau de banane est bourrée de sels minéraux, notamment du magnésium.
Du potassium.
Enfin, c'est formidable. Non, vraiment, faut hacher la banane, comme ça, la banane, vous l'avez mangée. Mais faut hacher et ensuite la mettre comme un paillis au pied des rosiers, par exemple.
Et ou des tomates. C'est assez spectaculaire pour les rosiers?
Ah oui, non mais franchement c'est moi j'ai pas une terre à rosier, ils sont un peu palichons à la maison et j'ai fait ça par exemple au pied dans le pot à la sortie de la cuisine, un petit rosier comme ça, un abonnant, enfin bref, et il a doublé de volume, les teintes des fleurs sont plus intenses, c'est génial.
On le dépose, on l'enterre pas.
On peut l'incorporer, mais on peut aussi la laisser sécher et elle va se dégrader avec le temps, avec la pluie et s'incorporer toute seule au pied.
On peut le faire dès maintenant.
Au pied de là. Bah, tout le temps.
D'accord, très bien.
Mais c'est super. Ils vont rajouter du café, du marc de café avec ça. Alors là,
et
c'est
du
sublime.
C'est un super conseil. Peau de banane hachée, plus marc de café, un peu de thé, c'est parfait. Bon, on continuera d'explorer d'autres expressions dans quelques instants.
Je vais faire ça.
Christine Appelé-Douel, un livre bienfaisant pour ce week-end. Ça s'appelle Lab Girl de Hope Jaren, une histoire de science, d'arbres et d'amour, traduit de l'anglais par Lucille Desbrosses, et c'est publié chez Canto. Le Washington Post nous dit en quatrième de couverture, sincère, drôle et brillant, avec Lab Girl, Hope Jaren fait du genre autobiographie quelque chose de remarquable.
Et oui, et c'est vrai. C'est absolument vrai. J'aime beaucoup la petite musique en dessous au passage, voulez-vous le dire.
Une saxo qui, voilà.
Très chouette. Hope, alors en plus ce prénom, Hope, espoir, c'est tout un programme. Elle est géologue et biologiste. Et elle est spécialiste de la germination des arbres, imaginez-vous. C'est son secteur de prédilection. Elle a une passion pour la science depuis l'enfance. Et puis elle est devenue chercheure. Professeur et chercheur, mais ça n'a pas été sans mal, parce que je peux vous dire que dans le milieu scientifique, que ça soit aux États-Unis ou ailleurs en Europe, il y a une vingtaine d'années, c'était pas le truc le plus simple que de devenir directrice de labo, lancer des programmes d'études, etc. Elle y est arrivée vraiment en travaillant comme une folle, en travaillant la nuit, etc. Et son livre, voilà, c'est ça, c'est une autobiographie scientifique, Lab Girl, laboratoire, la fille du laboratoire. Une autobiographie scientifique, mais aussi elle raconte, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce livre, elle émaille son autobiographie de considérations et d'explications scientifiques sur ce qu'est la germination. Alors autant vous dire que moi je ne connaissais absolument rien et que je me disais que c'est pas le truc qui va me passionner le plus du monde, eh bien on rentre là-dedans et on est happé par les explications. Alors par exemple, elle raconte des expériences qu'elle a faites. Alors elle travaille beaucoup sur les graines et sur ce phénomène extraordinaire, mais vraiment c'est l'extraordinaire de l'ordinaire de la germination. Comment se fait-il qu'une plante, à partir d'une graine, d'un seul coup, se mette à pousser, à sortir de terre, à essayer de survivre, parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets, en particulier dans les arbres. Ce qu'elle raconte, d'ailleurs, ça m'a fait penser à notre ami Laurent Tillon et à son livre sur son chêne. Et par exemple, donc, elle parle à un moment donné, dans un chapitre, de son travail sur la graine du mycocoulier. Alors, inutile de vous dire que c'est pas le truc sur lequel je me serais plongée du premier coup. Eh ben c'est remarquable. C'est remarquable. Elle a une manière d'expliquer, en effet, quel est le processus absolument inouï, le processus géologique et le processus chimique, biochimique de la germination. C'est remarquable. Et alors il y a des épisodes très amusants où elle raconte ses expéditions avec ses étudiants, où elle leur fait creuser véritablement des fossés pour arriver à comprendre quelle est la composition du sol de l'endroit où ils se trouvent et comment la composition du sol influe non seulement sur les espèces qui poussent à l'endroit où elles se trouvent, mais en plus sur la coloration, par exemple, des feuilles, sur la taille des arbres, sur la résistance aux insectes, la résistance au climat. C'est pour moi un livre du week-end formidable. En plus, c'est plein d'humour, c'est plein de camaraderie. Elle raconte en particulier son amitié indéfectible avec un type très drôle qui travaille, qu'elle a découvert et qui travaille dans son laboratoire. Comment il campe dans des endroits impossibles pour arriver à trouver justement des arbres, des graines, des plantes à comprendre. Et alors, à la fin, elle donne quelques conseils pour planter son arbre et pour soigner son arbre. En particulier, elle parle des chênes. Alors, vous savez que les chênes, en ce qui me concerne, sont vraiment mon arbre favori, fétiche. J'idolâtre les chênes. Et elle explique comment faire. En particulier, elle dit, alors là, Stéphane, c'est pour vous que... quand on a un chêne qui pousse comme ça spontanément dans son jardin, ce qui est mon cas, il faut vraiment y faire très attention, y faire attention en particulier durant les 3 premières années, parce que les 3 premières années de pousse d'un arbre sont les plus fragiles. Non seulement à cause des bêtes qui peuvent venir manger les petites feuilles, mais aussi à cause tout simplement de la nature du sol, de l'humidité, etc. Et donc prendre soin de son chêne, voilà.
Stéphane Marie.
Mais en fait, le chêne, c'est un arbre avec une racine pivotante. C'est-à-dire qu'il va aller en profondeur chercher ce dont il a besoin. Il est évident que la racine, elle va pas faire 1 mètre dès la première année. Donc, peu à peu, elle s'enfonce dans le sol, il se fixe dans le sol et surtout, il va chercher les nutriments et l'eau dont il aura besoin. Parce qu'il est capable, lui, de, inversement au être qui n'est pas capable avec ses racines de capter tout ce qu'il évapore. Et donc le chêne, il est solide, il est profond, il est enraciné profondément et effectivement, les premières années, il est beaucoup plus vulnérable.
La femme qui donne envie de lire Christina Pennywell, Stéphane Marie, qui va me le piquer, hein, le Lab Girl, je le sais, j'ai vu son regard tout au long de votre chronique. Lab Girl, une histoire de science d'arbres et d'amour, c'est publié chez Canto, c'est un éditeur suisse. Et c'est signé Hop Jaren. Merci beaucoup pour ce conseil, ma chère Christina.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Et oui, c'est l'heure de l'ami du vendredi, la nouvelle chronique de Guillemette Odissino. Après Arsène Lupin, vendredi dernier, vous nous présentez 2 nouvelles amies à la vie, à la mort.
Et oui, chères auditrices, chers auditeurs, cher Ali. Vous le savez, j'apprécie par-dessus tout la loyauté de mes amis de fiction. Car ils sont toujours fidèles au poste. Au poste à essence. Premier indice. Mais c'est encore mieux quand certaines de mes amies sont loyales entre elles, tellement complices envers et contre l'adversité qu'elles me transportent. Je veux vous présenter mes pétroleuses chéries. Mes copines, comme vous dites, à la vie, à la mort. Thelma et Louise.
T'es une copine géniale.
Toi aussi, t'es super, chérie.
Ça te plaît les vacances jusqu'ici ?
Oui.
Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein. Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Tu conduis bien. Merci. Copine. Alors oui, je sais, pour le dictionnaire, une copine est une simple camarade, alors qu'un lien profond vous unit à une amie. Mais ce n'est pas si simple, puisqu'une amie peut s'autoriser à vous juger, vous faire la morale pour votre bien, ou tenir à vous ramener dans le droit chemin, alors qu'une copine peut vous suivre jusqu'au bout de la nuit, justement parce qu'elle ne vous connaît pas depuis la maternelle. Vous voulez le truc imparable ? Il faut se poser cette question. Qui j'appelle si je viens de tirer sur un mec ? Qui j'appelle à 3h du matin pour lui dire « Chérie, dépêche-toi, enfile un jogging et surtout, apporte une pelle ». Quand j'ai rencontré Thelma et Louise en 1991 au début du film de Ridley Scott, Louise était la plus affranchie, celle qui conduit, avec son petit foulard sur ses cheveux roux. Thelma, elle, avait la beauté d'une pin-up, longue boucle blonde, bouche en cœur, tout étonnée d'avoir laissé son macho de mari en plan, avec un plat à réchauffer dans le micro-ondes, pour partir en virée avec Louise. Mais sur la route des femmes, il est très fréquent de croiser un violeur. Alors, notre escapade au volant de la Ford Thunderbird 1966 vers Amande tournait à la cavale. Et je voyais combien Thelma se métamorphosait pour devenir encore plus libre et incontrôlable que Louise. Combien elle devenait sœur, presque jumelle, avec leurs jeans, leurs débardeurs, épaules fières et cheveux emmêlés par ce vent de l'ouest, habituellement réservé aux cow-boys. Chaque fois que je les retrouve, j'espère qu'elles sentent ma main dans la leur au moment du grand saut.
Alors justement, Guillemette, elles finissent assez mal, vos copines. Hein ?
Non, Ali. Elles s'envolent. Pour ne plus jamais mordre la poussière, ne plus toucher le plancher des hommes qui sont vaches avec les femmes qui décoiffent, qui conduisent mieux qu'eux, qui dynamitent le système et qui se cassent. Une semaine après la sortie du film, j'étais tellement fière. Thelma et Louise faisaient la couverture de Time Magazine parce qu'elles avaient touché un point sensible. Juste en ouvrant les yeux.
T'es réveillée ?
Ouais, ouais, enfin si on veut, j'ai les yeux ouverts.
Moi aussi. Je suis en éveil.
Bravo.
Très éveillée. C'est rare même d'être éveillée à ce point-là. Tu comprends ? T'as l'air très différent. Tu dois sentir ça aussi. Il y a comme une attente dans l'air.
C'était il y a 30 ans. Il reste des kilomètres à faire. Et je peux vous dire qu'elles sont vénères. Elles ne voudraient pas avoir roulé pour rien.
Et vous pouvez réécouter, podcaster, partager L'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sur l'appli France Inter. Et là, je m'imagine avec Thibaut de Saint-Maurice en cavale, au volant d'une Kangoo.
Voilà, cheveux au vent.
Cheveux au vent.
Alors, ce serait pas Marianne Faithfull qui chanterait, ce serait qui alors?
Merci beaucoup, Guillemette. Dans un instant, quelques expressions de la langue française inspirées du jardin. Tout au long de la semaine, Grand Main vous fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux-Jalaguier, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation était signée Claire Destacan, avec à la technique cette semaine Clément Vuillet et Adèle Caglar. Programmation musicale Valentine Chedebois, et on écoute Supergrass, All Right. Supergrass interprété All Right.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h28, grand bien vous fasse, loisir. Thibaut de Saint-Maurice, vous vouliez ajouter quelque chose à la belle chronique, non mais de Guillemette Odissino consacrée à Thelma et Louise, que vous avez envie de revoir ce week-end.
Oui, non, parce que je trouve que le choix est formidable, et c'est vrai que ce film résonne aujourd'hui. On parle de, voilà, de nouvelle époque du féminisme avec des thèmes autour, voilà, de la sororité, de la mise en scène de la puissance des femmes, de la culture du viol, etc. Et dès 91, ce film déjà porte ces sujets avec des femmes qui simplement essayent de vivre un petit moment de liberté et dont on se rend compte que en fait elles en sont privées.
Oui, mais quand je dis qu'elles ont fait la couverture de Time Magazine, ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas les deux actrices, les merveilleuses Gina Davis et Suzanne Sarandon. Oui, c'était leur visage, mais c'était les noms de Thelma et Louise en dessous. C'est-à-dire, c'était ces deux personnages, et le titre, c'était vraiment « Pourquoi touche-t-elle un point sensible ?» Et ça avait provoqué, à l'époque, un vrai dossier, une vraie révélation de féminisme, qui était et il y avait aussi des réactions masculinistes folles contre le film. Enfin, ça avait fait vraiment beaucoup de bruit.
Michel Appelé Douala.
Oui, ce film, qui est un jalon dans l'histoire du féminisme, est aussi le produit des 30 ans et même des 40 ans précédents où les femmes n'ont pas cessé de se battre, et qui a été aussi jalonné de livres et aussi de films. Je pensais à un film, alors, pour arriver à retrouver le titre, peut-être que Guillemette m'aidera, avec une actrice qui s'appelle Jill Clayburgh, et qu'on ne voit plus, et qui était l'histoire de la lutte d'une femme, en revanche, pas de une, pour arriver à son émancipation, et qui quittait son mari. Voilà.
Allez, on va maintenant continuer de s'intéresser aux expressions de la langue française, inspirées des plantes et du jardin. Nathalie Gendreau, Stéphane Marie, je rappelle que vous publiez 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin aux éditions Le Robert. Alors, je ne me rendais pas compte du nombre d'expressions liées aux plantes et au jardin, Nathalie Gendreau.
Oui, en fait, je pense que c'est un peu une surprise.
Oui, moi, ça m'a vraiment surpris.
Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est un peuple fondamentalement de paysans. Et donc, notre langue est complètement infusée de végétal. Par exemple, si vous pensez à l'expression « ne pas mâcher ses mots »,
oui,
c'est intéressant de voir comment on lit dans notre esprit l'acte de parole au fait de manger. Donc je crois qu'on va chercher nos mots souvent au même endroit où on va chercher le contenu de nos assiettes.
Et je vous cite Nathalie Gendreau, employer des expressions, ce n'est pas simplement fleurir son langage, c'est aussi le métamorphoser en une forêt bruissante de vieilles histoires.
Oui, je crois que connaître les expressions, ce n'est pas seulement pour intérêt de briller en société. mais c'est aussi intéressant parce que, en fait, les expressions, c'est chargé d'histoire. Et donc, pourquoi on dit, par exemple, « quelle purée de pois » au lieu de dire « mais quel brouillard épais ». Je crois qu'il y a un vrai sens derrière ça. C'est-à-dire qu'on sent que quand on dit « quelle purée de pois », déjà, bon, c'est une image amusante, mais on sent que derrière, il y a une histoire forte. Et effectivement, c'est une histoire forte. Par exemple, celle-là, est tiré du smog londonien, donc qui est un mélange entre le brouillard de la Tamise et puis les fumées des usines qui sont depuis des siècles dans le coin de Londres, et qui a tué des dizaines de milliers de personnes. Et c'était un brouillard vraiment très très épais. Les voyageurs avaient l'impression de le manger réellement.
Stéphane Marie, sous ces expressions, il y a des énigmes.
Oui, il y a des énigmes, mais moi je voulais aller dans le sens de Nathalie en disant que il faut pas oublier que la population de ce pays était essentiellement rurale et que la référence, elle est, c'est ce qu'on a devant soi, c'est ce dans quoi on vit, et ben les gens, ils vivaient avec dans la terre, ils vivaient dans des bocages, ils travaillaient la terre, et l'essentiel de leur travail consistait à cultiver des légumes pour se nourrir ou pour les vendre. Ça paraît complètement bateau, mais il faut vraiment se remettre dans ce décor. Et
oui. Et bien non, parce que vous écrivez, certaines de ces expressions, si elles résonnent toujours en nous, tiennent davantage de l'énigme que de l'évidence.
Oui, en tout cas, moi, je me suis amusé à jouer avec ça parce que il y a des choses qui sans navets, ça porte à rêver, quoi. Et en même temps, le jus de navets, c'est vrai qu'on peut en boire.
Elle en boit, pas... Angèle Ferremac, très régulièrement.
Plutôt du jus de céleri. Le jus de navets, c'est un peu plus dur, mais ouh.
Ouais, voilà. Et en même temps, c'est tellement péjoratif. C'est une expression que je déteste. C'est vraiment que je trouve monstrueuse. C'est-à-dire que dire de quelqu'un, c'est un dégénéré, quoi. Ouais, ouais. Quelle horreur. C'est-à-dire, celui-là, tu vas pas l'épouser, hein. Parce que, il y a un sang de navets. Ouais. Et dans ma famille, j'ai entendu des choses comme ça.
Mais si en plus il a la physique d'une endive, alors.
Non, il pouvait être sublime, mais il y avait toujours un truc qui clochait. Enfin,
allongez-vous sur le divan de grand-mère vous fasse, Stéphane Marie. Thibaut de Saint-Maurice, ça vous vexe si je vous dis que vous avez une drôle de binette?
Non,
binette
degré, on va dire binette, ça me fait rire.
Binette synonyme de visage, de bouille, ça vient d'où cette expression drôle de binette, Nathalie Gendreau? Alors je rappelle que la binette, hein, c'est un outil qui sert à biner la terre. Hein.
Oui,
voilà. Nathalie Gendreau, ça vient d'où?
Alors, on ne sait pas.
Merci d'être venue.
Je vous en prie. Bon, en fait, il y a plusieurs théories, mais on ne sait pas vraiment laquelle primerait sur les autres. C'est une expression drôle de binette qui date du début 19e. Et ça pourrait venir du perruquier de Louis XIV qui s'appelait Benoît Binet. Mm-hmm. Et qui a donné son nom aux perruques, les binettes. Et donc, une drôle de binette, ça pourrait être la tête qu'on a avec sa perruque. Mais en fait, on ne sait pas. Ça peut venir de trombine, ça peut venir de bobinette. A priori, ça ne vient pas de la binette pour bêcher son jardin.
D'accord. Tiens, justement, Stéphane Marie, des conseils pour bien biner?
Alors, un binage est égal à deux arrosages. Donc, si vous voulez faire un peu d'économie d'eau, vous binez autour de vos salades parce que la terre, pour être fertile, elle a besoin d'avoir des bactéries. Il y a plein de bactéries qui sont là dans la terre et qui profitent aux plantes et qui aident les racines à capter les nutriments du sol. Donc, j'aère ma terre et donc je la fertilise. Et c'est avec la binette que vous faites ça. Et si en plus elle est en cuivre, c'est merveilleux.
Guillemette Odissino, à quand remonte votre dernière gueule de bois? Ce malaise qui succède à un excès de boisson.
Mais gueule de bois, je vois pas du tout ce qu'il y a comme... Ça jardine pas, gueule de bois.
Oui, mais c'est du bois, c'est
voilà. Quand remonte-t-elle?
Ce matin.
Nathalie Gendreau, quelle est l'origine de cette expression?
La gueule de bois, on en parle depuis le début du 20e. Et au début, c'était seulement pour décrire le fait qu'on avait la bouche pâteuse après avoir un peu trop bu. Et puis après, c'est devenu un peu plus fort. Mais ça vient de la même idée. Il y en a beaucoup d'expressions en deux bois qui parlent du visage dur, de la tête qui devient une impression de tête dure.
Mais il y a quelque chose un peu du jardinage, parce que moi, je préfère dire que j'ai les cheveux qui poussent à ce moment-là. Si on a un peu mal aux cheveux, on sent qu'on a l'impression de les sentir pousser.
Alors, il y a d'autres expressions avec le bois, hein, une volée de bois vert, toucher du bois, sortir du bois, la langue de bois aussi, montrer de quel bois on se chauffe. Chrysilla Pelédouel, est-ce qu'il vous arrive de yoyoter du bulbe?
Tout le temps.
Yoyoter, je le dis, c'est les coulisses de l'émission, c'est l'expression préférée de notre programmatrice, Alexia Rivière. Elle adore cette expression. Alors, yoyoter du bulbe, cela veut dire perdre la tête, divaguer, hein, Nathalie Gendreau. Ça vient d'où?
Mais ça vient du yo-yo, le jeu pour enfants, donc, et le verbe yoyoter date probablement des années 30, c'est assez récent. Et au départ, il était utilisé par les prisonniers, les bagnards, qui se refilaient des objets au moyen d'une ficelle. Et puis après, c'est rentré dans l'argot, au sens de être fou.
Guillemette Odissino.
Oui, je pense à l'argot. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'adore cette expression qui vient d'Alphonse Boudard. C'est avoir la cerise. Avoir la cerise, c'est avoir la chkoumoun, je crois. C'est avoir une malédiction. Oui, dans ses livres, en argot, il dit toujours « j'ai la cerise ». Vous savez d'où ça vient, « j'ai la cerise » ou pas?
Alors moi, non, j'ai jamais croisé cette expression.
Mais c'est du vieil argot, ça.
Ce sera pour une nouvelle édition du livre de Stéphane Marie et Nathalie Gendreau. À propos des bulbes, vous les aimez, ces bulbes, hein, qui font leur vie sans stresser. Hein. Vous les aimez, vous avez Une tendresse pour le bulbe.
Les bulbes.
Pourquoi vous les aimez, les bulbes?
Moi, j'adore parce qu'en fait, on est là. Quand j'ai commencé à jardiner, je me suis dit, je vais faire des mix borders.
C'est quoi?
À l'anglaise, comme ça. Je vais avoir des grandes plates-bandes bien larges avec plein de plantes vivaces, des verticales, des feuillages différents. Et sauf que bon, alors faut organiser les harmonies florales et tout, par saison, et tout, c'est compliqué, hein. Donc je me suis vraiment pris la tête avec ça. Et puis il faut quand même qu'il y ait des fleurs un peu tout le temps dans une plate-bande où a priori on fait pas grand chose. Et en fait le bulbe il nous sauve parce que quand la plante vivace elle est un peu endormie et qu'elle est pas, elle est plus fleurie, et ben il y a un petit truc là qui est entre les deux, tout d'un coup va sortir, va vous offrir une fleur magnifique. Et ça c'est un bulbe, c'est juste un coffre-fort que vous mettez dans le sol, qui dort et qui, au moment opportun, lorsque ça lui convient, se réveille et va nous faire une fleur, trois feuilles, et juste après, pouf, se rendormir et laisser la place aux autres. Quelle modestie et en même temps, quel panache.
Quel type de bulbe planter en ce moment? Les tulipes? Des bulbes de tulipes?
Non, là, on va commencer à planter les bulbes de printemps. Oui, tulipes.
Les jacinthes?
Tulipes, muscarie, persenège, jacinthe, jonquille.
Christine Appelé-Douel, la matrice de bulbes aussi.
Je suis complètement aussi d'accord avec Stéphane. Club. J'adore. Et j'adore, alors, ce que Stéphane conseille souvent, peut-être que je me trompe, c'est de jeter les bulbes comme ça, au hasard.
Oui, faisons naturel.
Voilà. Sur la pelouse, hop, on les jette et après on les plante où elles sont tombées, c'est ça?
Exactement.
Où ils sont tombés.
Exactement.
Voilà. Moi, j'ai bien suivi.
Bravo, merci.
Il y a même un truc vraiment poétique, c'est le domaine de tous les possibles. Quand vous achetez un sachet de bulbes et qu'il y a, le carton avec la photo, de tout ce que ça va donner. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a des tulipes de toutes les couleurs, du jaune, du violet, du rouge et tout. Rien que ça, moi, j'achète les bulbes. Souvent, je les plante pas, mais c'est beau. C'est beau, c'est porteur d'espoir.
Regard philosophique sur le bulbe.
Je ne me doutais pas. Vraiment, mais c'est merveilleux. J'écoute avec émerveillement parce que je ne me doutais pas qu'il y avait une telle poésie et même une philosophie du bulbe à ce point développée.
Philosophie du bulbe.
Je ne sais pas vous, mais je n'aime pas trop me faire carotter. Ça veut dire se faire voler. Vous me direz qu'on aime rarement ça, hein. C'est, voilà. D'où vient cette expression, se faire carotter, Nathalie Gendreau?
Bah, ce qui est rigolo avec cette expression, c'est qu'on a l'impression qu'elle est récente, qu'elle vient des banlieues peut-être, mais en fait pas du tout. Elle vient du 18e siècle, donc c'est assez ancien, elle vient du monde du jeu. Au départ des jeux de cartes, et ça signifiait jouer petit, puis à la bourse jouer peu. Et puis ça a dérivé petit à petit au 19e siècle vers escroquer, voler de l'argent.
C'est encore la saison des carottes, Stéphane-Marie?
J'ai récolté les miennes, c'est ce que j'ai semé au printemps, elles commencent à devenir assez jolies. Ouais. Moi j'adore cette expression parce qu'elle nous ramène en Hollande, ouais. Et l'histoire de la carotte c'est un truc de dingue.
Racontez-nous.
Au départ il y a des carottes blanches, des carottes rouges, je sais plus bien dans quelle partie, je sais plus si en Afrique ou en Asie. C'est en Asie. Et en Hollande, évidemment, tout d'un coup, parce que c'est toujours chez les Hollandais que ça se passe, ça m'énerve. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, on va chercher la tulipe, un Français va chercher la tulipe, il l'amène en Hollande, il la pose sur sa fenêtre, on lui pique, et là, tout d'un coup, c'est la tulipomania, le premier crack boursier. Et là, cette carotte, elle devient orange, et en plus, on est un con, mais des fois, on raconte que c'est en hommage à la famille d'Orange. À Guillaume d'Orange. Et c'est la couleur nationale de la Hollande. Et c'est la couleur du Gouda. Gouda qui aujourd'hui n'est plus teint avec de la carotte, mais avec du roucou, qui est lui-même, qui est une plante brésilienne. Et donc la carotte s'est fait carotter.
Avoir la tête comme une citrouille, je dis pas ça après vous avoir écouté, hein, Stéphane-Marie. Ça ne veut pas dire, alors moi je croyais que ça voulait dire avoir le melon. Ben non, avoir la tête comme une citrouille, c'est avoir mal à la tête suite à un effort intellectuel soutenu. Nathalie Gendreau.
Oui, alors peut-être qu'on a déjà la tête comme une citrouille, mais en fait, il n'y a pas vraiment de raison, parce que l'explication est vraiment simple. Hein. C'est juste que on a l'impression que la tête enfle et que, en fait, la citrouille est un synonyme de tête en argot, parce que c'est rond et gros, voilà.
Il y a plein de pépins à l'intérieur.
Oui, mais quand on se couche, ça fait glic, 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 comme quand vous avez...
Et on va d'ailleurs entrer dans la saison des citrouilles, potiron, potimarron, butternut. Ça vous plaît, ça, hein, Angèle Ferremag, hein.
Ah, ça, j'adore. Ouais. En sucré, en salé. Même simplement une citrouille cuite, mixée, mélangée avec du chocolat fondu, ça vous fait une pâte à tartiner toute simple, très saine, délicieuse. Mais il y a 1000 recettes à faire. dans tous les sens.
Thibaut ?
Moi, je voudrais savoir pourquoi ou qui pousse Mémé dans les orties.
Nathalie Gendreau ?
Ah oui, j'aime bien celle-là. Elle est très chouette. En fait, elle a plusieurs origines. Il y a le fait qu'au XIXe siècle, il y avait un jeu avec un bouchon. Et donc, on disait « pousser le bouchon un peu loin ». Ça, c'était exagéré. Et donc, si on réduit cette expression, ça veut, on utilise parfois « faut pas pousser ». Et si on mélange ça avec un vieil usage, vraiment très ancien, qui a 500 ans, on parlait de jeter le froc aux orties. Mm-hmm. Et donc là, l'image, c'est un moine qui décide de laisser tomber sa carrière ecclésiastique pour rejoindre ses amours. Il saute par la fenêtre du monastère et il tombe dans les orties, avec, il laisse ses vêtements dans les orties. Et donc, l'idée, ce serait de... Voilà, de défenestrer la grand-mère.
Ah ben bah dis donc, moi.
Alors que c'est un moyen de la réveiller.
Exactement.
Parce que l'antille est un stimulant. On sent frictionner les cuisses et le torse dans l'Antiquité. On a entendu parler de flagellation avec des orties pour chauffer le sang. Et
ça s'appelle Maya Mazor.
C'est vraiment un moyen de réveiller grand-mère. Voilà.
Alors à propos de grand-mère, ma grand-mère maternelle qui ne sucrait pas les fraises disait que la beauté ne se mangeait pas en salade. On termine par cette expression, la beauté ne se mangeait pas en salade. Hein, ça veut dire, mieux vaut un conjoint riche ou beau, ou bon que beau. C'est ça, Nathalie Gendreau ?
Oui, alors je ne sais pas si votre grand-mère est savoyarde.
Non, mais... pas du tout. Je vous confirme, ah bon ? Peut-être, il y a longtemps, mais... Et donc...
Donc en fait, c'est un proverbe alpin. Donc l'idée, c'est que la dot de la mariée compense sa laideur.
Ah, d'accord.
Ah oui, voilà, c'est un proverbe très élégant.
Et mon grand-père maternel était très beau. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi il disait ça. Et donc...
Donc en fait, l'idée, c'est que il vaut mieux que la mariée soit riche plutôt qu'elle soit belle. Et tant qu'à faire, on aime autant choisir les sous. Aujourd'hui, on a une version un peu plus politiquement correcte de l'expression. Ce serait plutôt, il vaut mieux que le conjoint soit gentil plutôt que beau.
Merci en tout cas, Nathalie Gendreau et Stéphane. Marie, vous restez avec nous. Je conseille vraiment ces 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin. C'est publié aux éditions Le Robert. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Thibaut de Saint-Maurice, on reste côté jardin avec vous et avec une question, jardinaire rend-il heureux ?
Ben oui Alice, c'est une question qui se pose hein, parce que un peu plus de 17 millions de Français, nous dit-on dans les études, jardinent tous les jours. Ce que je trouve beaucoup, d'autant plus beaucoup que c'est contraignant le jardinage. En tout cas c'est fatigant, il faut travailler presque tous les jours. Et puis en fait c'est très aléatoire parce que un coup de gel, un coup de chaud, un orage de grêle et on peut perdre très vite la somme de tous ces efforts. Et puis les plantations que l'on fait ne donnent pas toujours exactement comme on espérait. Bref, ça fait beaucoup de soucis. Mais d'un autre côté, quand on écoute un peu mieux les jardiniers experts ou les jardiniers du dimanche, il y a, au-delà des tracas et des aléas, un plaisir constant du jardin.
Tenez, vous voyez, voilà, regardez, ce sont des lavandes.
C'est de la lavande.
Oui, qu'il faut que je nettoie, vous voyez, pour laisser pousser les autres fleurs, les autres tiges, je veux dire. Voilà, j'adore ça. Moi, faire une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui vous arrive après, on la mange, toute chose.
Quelles sont les qualités d'un bon jardinier ?
Eh bien, je crois en fait que c'est le calme, la patience, la sérénité. C'est ça. En tout cas, pour moi qui suis un nerveux, ça m'amène tout ça déjà. Ça me l'amène. Dans le jardin, je suis comme ça. Et si tout je retourne au studio, je suis immédiatement comme ça. Mais enfin, ça m'amène du calme.
Alors, vous l'avez reconnu, ce jardinier ?
Louis de Funès.
Bah oui.
Et voilà, Louis de Funès, notre Louis de Funès national, hein, qui raconte sa passion du jardinage et tout ce que ça lui apporte. Donc, non seulement des salades, c'est merveilleux les salades, hein, c'est une aventure, dit-il, mais aussi du calme, de la sérénité, de la tranquillité. Pour cet homme habitué des plateaux de théâtre et de cinéma, le jardin est l'occasion donc de se retrouver simplement face à lui-même, loin du tourbillon de la célébrité et du succès.
Alors, le jardin serait donc l'espace du retour à soi ?
Oui, en quelque sorte, un espace protégé, un espace refuge, à l'écart de la vanité du monde et de ses sirènes décevantes ou éphémères. Souvenez-vous, notre Voltaire national, cette fois, nous invitait à la fin de son conte philosophique Candide, et ce sont même les derniers mots du texte, à cultiver notre jardin, à ne pas perdre notre temps à courir derrière des mirages. Le jardin est ici ce qui compte, ce qui constitue à la fois le cœur de notre vie et la tâche à accomplir pour s'accomplir soi-même. Cultiver son jardin, c'est se cultiver soi-même. Pas besoin donc de jardin au sens strict pour le cultiver. Le jardin devient finalement la métaphore pour désigner tous les espaces à soi et jusqu'au plus secret de notre vie intérieure. Jardin secret, jardin intérieur. Et si on veut être heureux, il va donc falloir continuer de le cultiver. Pourquoi ? Alors là, c'est un autre philosophe du jardin qui a la réponse, c'est Épicure, qui a même fondé une école de philosophie dans son jardin. Voilà, avis aux amateurs. Pour Épicure, le bonheur consiste à désirer des choses simples et non pas des désirs infinis, désirer être en bonne santé, ne pas souffrir, avoir de quoi se nourrir, mais surtout être entouré de ses amis et pouvoir passer du temps à discuter avec eux. Autrement dit, ça suppose de défricher, de biner, de tailler nos propres désirs dans notre jardin intérieur pour ne garder que ceux qui pourront donner du fruit ou de jolies fleurs et pour se débarrasser des herbes mauvaises qui grimpent partout et qui étouffent tout le reste. Cultiver son jardin, donc, c'est se cultiver soi-même, entrer dans un nouveau rapport à soi, travailler sur soi et donc développer, se tailler soi-même. De même qu'on peut tailler un arbre ou donner une forme à un buisson, on peut se tailler en donnant certaines formes à nos désirs et à notre manière de voir la vie. Et c'est aussi apprendre à faire face aux aléas, ce coup de chaud, ce coup de gel, ces orages, c'est-à-dire les maladies, les ruptures amicales, la mort, à force de préparation, de patience et de soins. Alors c'est beau, parce que c'est entretenir au fond la conviction que notre bonheur dépend de nous, et non pas d'un destin où tout serait déjà écrit. Et voilà bien le paradoxe, le jardin est clos, ou du moins limité, et pourtant c'est toujours un espace de liberté.
Stéphane Marie ?
Moi, je trouve que les petits soucis dont vous parlez les plaisirs constants, je crois que lorsque vous êtes un jardin, c'est pluriel, donc les choses, si ça va mal quelque part, ça va bien quelque part, et c'est avec ça que je vais travailler. Je suis face à des plantes qui ne me parlent pas et que j'écoute. Donc, qui écoute quoi et qui écoute qui, c'est ce silence-là qui m'intéresse. Le plaisir constant, la constance, c'est la qualité du jardinier, parce qu'il doit être là tous les jours. Et je suis surpris de savoir que 17 millions de Français jardinent tous les jours. Bravo. Et c'est le retour à soi, mais pas le retour sur soi. C'est-à-dire que le jardin clos avec le bonhomme au milieu, moi, c'est tout ce que je déteste.
Et vous pouvez podcaster, partager la chronique de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter. Je vous signale, Thibaut, une nuit de la philosophie à l'UNESCO à Paris, à partir de 19h aujourd'hui jusqu'au petit matin, vous pourrez y retrouver 40 philosophes et 40 artistes.
On y court.
Angèle Ferremag, qu'est-ce qu'on cuisine ce week-end ? Vous avez apporté de beaux légumes ?
Moi, j'ai apporté aujourd'hui de l'artichaut, donc ce chardon apprivoisé de la famille des cardons. Et juste avant de commencer la recette, je voulais juste faire une petite aparté. Ce serait Catherine de Médicis qui l'aurait apporté sur les tables de France, parce qu'elle était florentine et nostalgique de son Italie natale. Et donc, elle a apporté l'artichaut, elle adorait ça. Et comme il serait aphrodisiaque et qu'Henri IV aurait quelques petits problèmes, les Parisiens hurlaient une petite chanson que Stéphane Marie va nous chanter. Allez.
L'artichaut pour monsieur, pour madame, l'artichaut pour réchauffer le cul et l'âme.
Voilà. Merci. Et donc, sur ce, nous allons commencer cette petite recette d'artichaut poivrade croquant, sauté à l'huile et au parmesan. Alors, on va commencer. Donc, moi, j'adore les artichauts poivrades. On va commencer par les tourner. Donc, d'abord, on enlève les premières tiges et en fait, on va couper les premières feuilles jusqu'à ce qu'ils ressemblent à une tulipe, finalement. Ensuite, on va couper une partie du pied. Le bout seulement, parce que contrairement aux gros artichauts, on va devoir casser la tige. Les artichauts poivrades, on va simplement couper le bout du pied. La partie haute de la tête aussi, à peu près à moitié. On va bien nettoyer avec un couteau, éplucher la tige et le tour. Les couper en 4 ou 6. Moi, j'aime bien les faire finement parce que je n'aime pas les faire revenir à l'eau. J'aime bien les faire uniquement sauter à la poêle. Je trouve ça a beaucoup plus de goût, c'est plus croquant. Et ensuite, une fois bien préparés, vous les laissez dans un récipient qui contient de l'eau citronnée. Ça va éviter leur oxydation. Ça, c'est vraiment important, surtout si vous ne les cuisinez pas immédiatement. Et ensuite, vous les faites revenir à feu vif pendant 15-20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien doré et vous le servez avec du parmesan râpé, éventuellement quelques pignons. Et juste pour revenir, tout à l'heure vous parliez de la magie des graines germées. Alors sachez que vous pouvez la faire en cuisine, cette magie, et je suis d'accord avec vous, c'est complètement impressionnant. Et on peut faire germer nous-mêmes des petites graines. Il suffit de se renseigner un petit peu et d'avoir un pot de confiture et une gaze stérile et un élastique pour les cheveux, et vous pouvez tous les jours voir cette magie apparaître. Et donc, pourquoi pas mettre un petit peu de graines germées de roquettes dessus pour apporter un petit peu de tonique.
Priscilla.
Ah oh bah oui, je ne peux qu'approuver. Moi, je n'aime pas les gros artichauts, non, mais les petits artichauts poivrades, c'est une merveille.
Guimette.
Moi, dans la recette, mon légume préféré, c'est le parmesan.
C'est le parmesan.
Je suis d'accord.
Thibaut,
je ne connaissais pas l'existence de l'artichaut poivrade.
C'est vrai?
Et absolument. Ouais. Et donc, me revoilà moins bête que je ne suis.
Comment
arrivée.
Bien le choisir, Angèle?
Alors, on le choisit bien ferme, comme tous les légumes de toute façon. Là, il est d'ailleurs un petit peu mou et bien petit, bien coloré. Il est un petit peu violet, en fait. On l'appelle aussi l'artichaut violet ou l'artichaut de Provence. Et contrairement à l'artichaut breton qui est plutôt uni dans sa couleur verte, là, on voit des petites variantes. Donc l'artichaut poivrade, en ce moment, on en trouve.
Merci beaucoup, Angèle Ferremag. Et on retrouve la chronique sexe de Maya Mazzucato.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Maya Mazzucato, Maya, tu as lu le livre de nos invités et tu avais quelques remarques à leur faire.
Oui, Stéphane, Nathalie, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Vous avez été censuré par votre éditeur, c'est ça? Vous êtes devenu mormon? Non, parce que quand même, vous avez oublié plein d'expressions là dans votre bouquin.
Ah, bah oui, bah oui.
Compter fleurette, dégorger le poireau, astiquer le poireau, titiller la framboise, ramonner l'abricot, chatouiller le nénuphar, poser sa petite graine, se lécher la poire, se faire brouter le gazon, au milieu de pétales de rose et de tiges turgescentes. Il y a tellement d'expressions sexuelles dans nos jardins. Et je crois savoir pourquoi elles ne sont pas dans le bouquin. C'est parce qu'il aurait fallu tripler le nombre de pages et encourager la déforestation de l'Amazonie pour parler jardin. Ah, effectivement, c'était un peu bizarre. Bon, là, je vous charrie gentiment. Mais en vrai, plus grand monde n'emploie ces expressions aujourd'hui. Non parce qu'on a arrêté de regarder avec lubricité notre potager, mais parce que les métaphores botaniques se sont déplacées du langage parlé au pictogramme de nos smartphones. C'est une pêche et une aubergine qui ont été choisies pour représenter les organes sexuels en emoji. Alors bon, toujours les fruits pour les filles, les légumes pour les garçons. On transgresse l'ordre des espèces plus facilement, manifestement, qu'on transgresse l'ordre du genre.
Pourquoi y a-t-il autant de métaphores botaniques dans la sexualité, Maya?
Ouais, c'est sûr, on peut avoir l'impression que l'imaginaire botanique, il est partout dans la chambre à coucher, mais faut faire un peu attention parce qu'il y a un effet loupe. Si on cherche des sous-entendus sexuels dans la langue, on les trouvera partout, dans le vocabulaire animal avec les cochons et les félines, dans le vocabulaire technique des marteaux pilons et des pistons, dans le vocabulaire même de l'astrophysique à coups de trous noirs et d'Uranus. Notre langue, notre littérature se sont construites à un moment où le sexe était tabou, donc c'est normal qu'elle soit saturée de métaphores sexuelles. En fait, on se débrouillait un petit peu comme on pouvait. Mais il y a autre chose qui est explorée en ce moment dans une excellente revue d'anthropologie publiée sous la houlette du CNRS, c'est la revue Terrain. Le dernier numéro est consacré aux amours augmentés. Est-ce qu'on peut tomber amoureux hors des clous de l'espèce, tomber amoureux de logiciels, d'instruments de musique, de voitures, de poupées et bien sûr des plantes de notre jardin? Il y a deux gros articles qui explorent en détail la phytophilie, le désir pour les plantes. Et on y apprend que l'héros botanique a inspiré plein d'artistes, les illustrations sont sublimes, mais aussi qu'elle a inspiré des formes d'affirmation politique comme l'écosexualité, qui est un versant un peu confidentiel et un peu funky de l'écoféminisme. Alors bon, je vois que je vais un peu loin. Et effectivement, la phytophilie est ultra minoritaire. Le coït végétal reste rare. Mais c'est pas grave parce que l'idée, elle est vachement belle. Et il y a dans cet imaginaire un point de contact possible entre nous et les jardins. Un espace de liberté absolue où toutes les pratiques sont permises parce que la phytophilie n'est encadrée par aucun texte de loi. Et ça veut dire que quoi qu'on en dise, il reste dans le domaine de la sexualité qui paraît des fois un peu trop bien taillé, des terrains vagues, des mauvaises herbes, des fruits défendus, des fleurs sauvages, des buissons ardents, de possibles pollinisations croisées. La langue, en tout cas, elle nous y invite. Et ensuite, pour les travaux pratiques, il suffit d'avoir la main verte ou de cultiver, justement, son jardin secret.
Maya Mazzucato, et vous pouvez podcaster et partager sa chronique sexe sur l'appli France Inter. Vous êtes phytophile, Stéphane Marie?
C'est bien de nommer les choses.
C'est vrai. En tout cas, je retiens titiller la framboise, ramener l'abricot. Hein, voilà, pour vous ferez une édition rose, peut-être.
Un tome 2.
Stéphane Marie. Ce serait un best-seller, c'est tellement pas douter.
Merci à tous d'avoir participé à cette cette émission. C'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron et de Christophe André, une émission consacrée à la nostalgie. Et lundi, dans Grand Bien Vous Fasse, nous attendons toutes vos questions sur la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter et ce sera le retour de notre ami Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale.